Luc chapitre 2. Naomi avait un parent de son mari, c'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec qui se nommait Boaz. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ, de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs, et il se trouva, par bonheur, que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Chapitre 1, verset 1. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays, un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses deux fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. Prions. Seigneur notre Dieu, encore une fois ce matin, nous nous présentons devant toi, Seigneur, en implorant ton aide pour que, Seigneur, ta parole qui est la vérité, Seigneur, puisse aller se loger au plus profond de nos cœurs. Seigneur, tu connais les besoins de chacun. Tu connais, Seigneur, les ennuis, les tracas, les soucis, les joies de chacun. Et Seigneur, nous savons que tu n'es pas à court d'idées, que ta parole est suffisamment riche pour consoler, pour réconforter, pour reprendre, pour exhorter, pour encourager. Seigneur, en fonction de ce que nous vivons dans chacun de nos cœurs. Seigneur, ce matin, je suis convaincu que tu répondras à tous nos besoins. Tu nous demandes simplement, Seigneur, de garder nos cœurs ouverts à recevoir ce que tu as préparé d'avance pour chacun de nous. Que ta parole, Seigneur, puisse agir puissamment dans chacune de nos vies. Et le peuple de Dieu dit, Amen.
Amen.
J'ai lu le premier verset du premier chapitre en fonction de la semaine passée. On n'avait pas eu le temps de terminer. Mais ce qui m'a frappé, c'est que Élimélec, ses deux fils et sa femme étaient partis à Moab, et le texte nous dit, pas pour aller y demeurer, mais pour un séjour, et le séjour a duré 10 ans. Et souvent, on parlait la semaine passée en fonction des chrétiens qui quittaient l'Église, souvent, et ils disent, bon, je vais prendre un temps de recul de l'Église pour un certain temps, oui, je vais faire un séjour dans le monde, et souvent, eh bien, le séjour, il dure extrêmement longtemps, et quand ils reviennent, souvent, eh bien, on doit les ramasser en petits... Un petit morceau, quoi. Et on voit tout ce que Ruth a vécu, tout ce que Ruth a perdu. Elle dit, je suis parti, j'ai quitté Bethléem dans l'abondance, cette maison de pain dans l'abondance. J'ai quitté le pays de bénédiction du Seigneur, c'est-à-dire le pays de Juda, pour aller dans un pays que Dieu avait maudit, le pays de Moab. J'ai quitté ce pays dans l'abondance et je suis revenu, nous dit-elle, les mains vides. Et là, eh bien, elle revient avec Ruth, sa belle-fille, qui décide... De la suivre. Et la semaine dernière, eh bien, on a vu que Naomi avait décidé de revenir justement à Bethléem et que Ruth, sa belle-fille, avait décidé de la suivre. Et le chapitre 3, eh bien, nous montre, le chapitre 2 nous montre cette nouvelle vie qu'elle commence dans un nouveau pays. Ils ont quitté tous les deux Moab, qui correspond à leur ancienne vie, et elles habitent maintenant à Bethléem, qui correspond à leur nouvelle vie. Cependant, nous savons, et nous l'avons vu la semaine dernière, que la vie des veuves à l'époque, eh bien, n'était pas comme aujourd'hui. Elle n'était pas facile, il n'y avait pas de moyens de subsistance pour les veuves, elles étaient laissées elles-mêmes, et elles devaient, par contre, continuer à vivre. Et ici, on voit au verset, au chapitre 2, que Ruth va se mettre, elles ont besoin de vivre, elles ont besoin de se nourrir, et qu'elle va chercher de la nourriture. Elles ont besoin de nourriture, et Ruth, qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle va aller glaner des épis dans le champ, c'est ce que le texte nous dit ici, hein? Elle va aller glaner des épis dans son champ, dans un champ, et son principal objectif, eh bien, c'est vraiment de trouver de la nourriture pour fortifier son corps. Et Ruth, elle illustre très bien ce désir qui prend naissance dans le cœur d'un enfant, d'un enfant de Dieu au début de sa conversion. On a vu que, à partir du moment où elle prend la décision, on a vu aussi sa prière dans le chapitre 1, quand elle décide de suivre Naomi, sa belle-mère, on voit qu'elle se convertit, elle voit qu'elle se tourne vers le Dieu de Naomi. Et là, on la voit, un jeune enfant dans le Seigneur qui décide, eh bien, qui a besoin de nourriture et qui va décider, eh bien, de trouver de la nourriture pour fortifier son corps. Et à travers cet exemple, eh bien, moi, j'ai trouvé que ça illustre très bien ce désir qui prend naissance dans le cœur d'un enfant de Dieu à sa conversion. Tout ce qu'il désire, c'est de garder dans son cœur tout ce que Dieu ordonne. Connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Je ne sais pas si je vous demandais ce matin de m'expliquer qu'est-ce que c'est de connaître la résurrection de Christ, mais à partir du moment où on saisit vraiment bien qu'est-ce que c'est la résurrection de Christ, quand on connaît bien ce que c'est la résurrection de Christ, écoutez, ça nous donne des ailes. Ça nous donne des ailes pour vivre comme Dieu nous demande de vivre. Le problème, c'est qu'on oublie. On oublie qu'on a cette puissance-là en nous. On se limite à la personne de l'Esprit, du Saint-Esprit qui habite en nous. Mais dans la pratique, eh bien, ça signifie qu'on peut vivre cette résurrection, la puissance de la résurrection de Jésus-Christ. Et ça, c'est important, quoi. Paul nous dit qu'on a été crucifié avec Christ et qu'on a été ressuscité avec Christ, quoi. Et si on saisit vraiment bien ce que ça veut dire qu'on est déjà dans un autre monde et que tout ce que le monde nous offre présentement, ça ne devrait plus avoir aucun effet sur nous. Le problème, c'est que si on oublie qu'on a cette puissance de la résurrection en nous, eh bien, on tombe dans les pièges que le malin place sur notre chemin et on risque de recommencer à vivre comme le monde nous appelle à vivre. Mais pour connaître cette puissance de la résurrection de Christ, il faut d'abord avoir connu la puissance de la crucifixion de Jésus-Christ qui prend sur lui nos péchés et puis qui nous permet d'être libres. Être libre non seulement du péché, d'être libre du diable, d'être libre du monde et de la puissance qu'il exerçait sur nous. Et ce jeune chrétien, bien, qu'est-ce qu'il fait? Il essaie de grandir comme Dieu le veut. Le jour de notre naissance, frères et sœurs, nous sommes des bébés. J'espère que vous êtes tous venus au monde bébés. Hein, il y a un film dernièrement, le gars, il commence, je pense qu'il a 100 ans, puis c'est le contraire, quoi. Hein? Il rajeunit plutôt que vieillir. C'est avec Brad Pitt, je pense, non? Voilà. Bon, je l'ai pas vu, on me l'a raconté. Alors, avec Brad Pitt, et je pense que sans exception, on est tous venus au monde comme des bébés. On a commencé à vivre dans un nouveau monde pour progresser au fil des ans afin d'arriver à une certaine maturité. Et il en est de même lorsque nous naissons de nouveau. Nous sommes des bébés spirituels qui commençons à vivre dans un nouveau monde pour progresser au fil des années afin d'arriver à une certaine maturité spirituelle. Un bébé doit apprendre à marcher, un bébé doit apprendre à parler, et le nouveau chrétien doit aussi apprendre à parler, à marcher dans cette nouvelle vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Et en tant que nouveau-né, nous devons désirer sans cesse l'air spirituel et pur de la parole, afin qu'en le buvant, nous grandissions et que nous soyons sauvés. Moi, j'ai aucun problème à avoir un bébé. Bon, là, ça fait déjà longtemps que je suis déconnecté des couchettes et des couches, mais jusqu'à quel âge un bébé dans une couchette? Les jeunes mamans, là. 2 ans? C'est beaucoup, 2 ans, non? Je trouverais ça normal. Je trouverais ça normal d'avoir un bébé dans une couchette. Mais un gars de 15 ans, de 25 ans, qui dort encore dans sa couchette et qui a toujours sa suce dans la bouche, qui n'est pas capable de dire un mot, qui n'est pas capable de manger tout seul, là, je me poserais des questions, quoi. Et c'est un peu la même chose spirituellement, quoi. Spirituellement, quand on vit au monde dans le Seigneur, quand on passe par cette nouvelle naissance spirituelle, eh bien, Dieu ne nous appelle pas à rester des bébés, quoi. Dieu nous appelle aussi à maturer spirituellement. On devient des bébés, des enfants spirituels, et Jean l'explique très bien dans sa première épître, au chapitre 2, hein. Il dit, je vous écris ces choses, petits enfants, et je vous écris ces choses, jeunes gens, et je vous écris ces choses, pères. Alors, il y a une progression dans l'épître de Jean. Pour Jean, on ne reste pas qu'à des bébés spirituels. On est des bébés, on devient jeune, on appelle ça aujourd'hui l'adolescence, et après ça, on est censé devenir des adultes dans le Seigneur. Et tout comme Ruth, eh bien, avait besoin de nourriture pour se maintenir en vie, de même, nous avons besoin de nous nourrir de la parole de Dieu si nous voulons rester en vie spirituellement. Et je le rappelle ce matin, je l'ai rappelé à l'étude biblique, la faiblesse de l'Église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est l'ignorance des chrétiens face à la parole de Dieu. Il n'y a pas de secret, quoi. Il n'y a pas de secret. Si vous ne connaissez pas la parole, quand il arrive une épreuve, vous réagissez dans votre chair, puisque vous n'avez pas les éléments de la parole pour réagir. Dieu ne peut pas vous transmettre ce que vous n'avez pas lu. Dieu ne peut pas vous aider à vous relever parce que vous n'avez pas médité ce à quoi il pourrait utiliser pour vous aider. Il n'y a pas de secret. Mon doyen de faculté, ça fait déjà longtemps que j'ai quitté la fac. C'est une des choses, presque une des seules que j'ai retenues dans la fac. Il disait, avec toute la technologie qu'a l'Église aujourd'hui, les satellites, les CD, les DVD, les ordinateurs, l'Église n'a jamais été aussi pauvre spirituellement qu'elle l'est maintenant. On a trop d'outils à notre disposition qui nous empêchent de méditer les Écritures. On est dans une génération où on a développé nos cerveaux, des cerfs-volants. On a des cerfs-volants. Je veux dire, en belge, on a des cerveaux lents. Voilà. Pas pour penser que je parle des cerfs-volants. Hein? Voilà. Mais c'est vrai. Quand vous pensez qu'au niveau de la tradition orale, les Juifs connaissaient les 5 premiers livres de la Bible par cœur, quoi. Quand vous pensez que pour rentrer à la grande école coranique d'Égypte, la grande qu'il connaît à travers le monde, l'étudiant doit connaître le Coran par cœur, sinon il n'est pas accepté, quoi. Est-ce que Dieu peut exiger moins que ce que les religions et les religieux nous demandent, quoi? Et je pense que ce n'est pas une question d'exigence. C'est une question comment on vit notre relation avec le Seigneur, quoi. Non? Oui. Et quand on aime quelque chose, on est difficile à déconnecter, hein? Je vois ça, moi, avec certains de mes enfants à la maison, hein? Quand ils embarquent sur un jeu d'ordinateur, ils sont captivés par ce jeu. Ben, il faut aller couper Internet, il faut couper l'électricité, il faut tout faire, quoi, pour les sortir, hein? Ouais. Mais ils nous montrent ce qu'ils font, ils démontrent ce qu'ils font à leur passion. Il n'y a pas de secret, hein? Il n'y a pas de secret. Et je pense que c'est la même chose. Dieu n'a pas besoin d'exiger de nous qu'on apprenne les Écritures. Si Dieu occupe la place qu'il doit prendre dans notre cœur, si on est passionné comme on devrait l'être pour Dieu, on n'a pas besoin que Dieu nous force, qu'il place une loi pour nous forcer à méditer les Écritures. On le ferait avec plaisir, quoi. À chaque minute, à chaque instant qu'on aurait, eh bien, pour méditer les Écritures, on le faisait. J'ai acheté la collection de John Wesley, hein, les 20 livres qu'il a écrits. Là, c'est pas des petits livres, c'est des bottins téléphoniques, hein, l'épaisseur des livres. Jamais John Wesley perdait une seule minute dans sa vie à rien faire. Et il a tout noté dans ses 20 livres, quoi. Ça le rendait malade de passer une minute dans l'oisiveté. On en a parlé mercredi soir. C'était un homme qui était entièrement consacré au Seigneur. Il connaissait les Écritures et il répondait avec sa bouche à ses détracteurs par les Écritures et cela les empêchait de lui faire quoi que ce soit. Selon J.A. Carlson, un oiseau peut vivre 9 jours sans manger. Vous êtes d'accord avec ça? J'ai pas testé, hein? Un homme 12 jours, qui a déjà jeûné 12 jours, il y a des exceptions. Moïse, le Seigneur, des exceptions, Dieu fait des grâces particulières. Un chien, 20 jours. Après 20 jours, apparemment, qui commence à jouer après vos jambes. Une tortue, 500 jours. Un serpent, 800 jours. Un poisson, sûrement pas un poisson rouge, mais un poisson, 1000 jours. Et un insecte, 1200 jours. Est-ce que je peux rappeler que le croyant ne peut pas passer un seul jour sans nourriture spirituelle s'il veut progresser spirituellement? J'irai plus loin que ça s'il ne veut pas mourir spirituellement. Beaucoup de croyants ressemblent à cette petite fille qui était tombée de son lit pendant la nuit. Sa mère l'entend pleurer et la court pour voir ce qui ne va pas. « Maman, maman, je suis tombée en bas de mon lit, » dit la fillette en sanglotant. Sa mère la relève, la prend dans ses bras et lui dit, « Chérie, pourquoi es-tu tombée en bas de ton lit? » Mais la fillette répond, « J'étais trop près de la bordure de mon lit. » Ça se dit, ça, oui? Yeah. Voilà pourquoi je suis tombée. Frères et sœurs, plusieurs croyants sont comme cette fillette. Ils vivent trop près du monde alors qu'ils devraient s'en être éloignés depuis longtemps. Alors, ils finissent par tomber. Ils ont besoin de grandir spirituellement et avancer davantage dans leur vie chrétienne. Je connais des chrétiens qui n'avancent pas dans leur vie. Pourquoi? Ils ont encore conservé beaucoup d'amis dans le monde. Beaucoup d'amis dans le monde. Le Seigneur ne demande pas de ne pas avoir d'amis dans le monde. Il demande de les évangéliser. Il demande de leur témoigner. Et après, tu les laisses. Tu les laisses? Parce que sinon, ils vont finir par te tirer avec eux, quoi. Il n'y a pas de miracle. Ils vont finir par te tirer avec eux. Le Seigneur nous dit, témoigne à tes anciens copains. Manifeste-leur la joie que tu viens de recevoir en Jésus-Christ. Parle-leur de l'espérance vivante que Dieu a déposée dans ton cœur. Offre-leur cette même possibilité de toi de changer de vie, de passer par cette nouvelle naissance. Et après, attends qu'il t'appelle. Et vous allez voir que si vous les laissez, vous risquez d'attendre longtemps avant qu'il vous appelle. Et si vous persistez à les fréquenter dans le but de penser que vous pouvez les amener au Seigneur, tôt ou tard, vous allez finir par faire exactement comme eux. Vous allez finir par adopter la même vie qu'eux. Et entendre parler du Seigneur, ça finira comme eux, par vous déranger. Il n'y a pas de miracle avec le Seigneur. Verset 2. Ruth était à la recherche d'un propriétaire qui se ferait un plaisir de l'accepter et lui permettre de glaner dans ses champs. Et ce, malgré ses origines, malgré son passé, malgré ce qu'elle était, elle espérait trouver grâce. Elle représente ce nouveau-né dans le Seigneur qui veut par-dessus tout plaire à Dieu. Peu importe ses origines, peu importe ce qu'il a fait. Ouais. Et ce matin, dans ce lieu, si vous avez jamais pris cette décision pour le Seigneur, peu importe ce que vous avez fait dans votre vie, peu importe vos origines, peu importe ce que vous avez pensé de Christ dans votre vie, Dieu ne rejette personne qui vient à lui. Amen. Il n'y a personne ici qui peut dire lorsqu'il a fait ce pas de foi de croire dans le sacrifice de Jésus, il n'y a personne qui peut se lever ici et témoigner que Dieu le rejette en lui disant, toi, tu n'es pas suffisamment digne. Parce que si Dieu nous accepte uniquement sur la base de notre dignité, on est tous perdus pour l'éternité. Si Dieu nous accepte sur la base uniquement de ce qu'on a fait dans le passé pour nous accepter, on est tous perdus pour l'éternité. Frères et sœurs, chaque situation que le chrétien affronte, il se pose la question, que ferait Jésus à ma place? Il y a ce désir irrésistible dans son cœur de simplement plaire au Seigneur. Il possède ce premier amour que plusieurs ont perdu et dont parle Jésus dans Apocalypse, chapitre 2, versets 1 à 7. Ce que j'ai contre toi, dit le Seigneur, c'est que tu as abandonné, perdu, je pense, en français courant, ça. C'est un mauvais mot, ça. Mauvaise traduction. Parce que tu peux perdre quelque chose, hein, tu peux perdre un bijou, tu peux perdre ta montre sans le vouloir, quoi. Mais abandonner, volontairement, hein? C'est volontairement qu'on abandonne. Hein? Et c'est différent dans le texte grec. Hein? Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Lorsque Paul dit que dans les derniers temps, sache que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi. On ne peut pas abandonner quelque chose qu'on n'a pas eu, quoi. Et dans la deuxième épître à Timothée, il dit pourquoi les gens abandonnent la foi? Parce qu'ils veulent s'amuser avec le Dieu de ce monde. Parce qu'ils veulent participer au plaisir que ce monde offre. Ils ont été séduits. Nombreux sont ceux qui, comme Ruth, ont peur d'être acceptés par le Seigneur. Pourtant, votre vie passée n'est plus un problème si vous êtes sauvés par la grâce de Dieu, parce qu'il vous a permis de prendre un nouveau départ. Et moi, quand je rencontre des gens, je leur témoigne, qui me disent, oh, je regrette tellement ma vie. Oh, si j'avais su, si je pouvais recommencer à nouveau. Ben oui, tu peux recommencer à nouveau. Ben oui, tu peux recommencer une nouvelle vie, quoi. C'est pas parce que tu rentrerais dans le ventre de ta mère puis tu viendrais au monde une deuxième fois que tu ferais pas les mêmes bêtises, quoi. Si t'es pas passé par cette nouvelle naissance-là, tu risques de faire pire parce que tu as déjà l'expérience, un bagage de vie avant. Hein? Et là, tu t'es fait prendre par manque d'expérience. Là, tu as maintenant acquis l'expérience et tu risques d'être deux fois plus mauvais, deux fois plus méchant, de faire deux fois plus de bêtises, quoi. Mais tu peux recommencer une nouvelle vie. Différente. Amen. C'est ce que vous avez fait tous ici. Mais commencer une nouvelle vie en Jésus-Christ. Elle dit, verset 2, encore, elle dit, « Laissez-moi aller. Laisse-moi aller de Naomi. » Elle démontre qu'elle est impatiente d'être une bénédiction pour Naomi. Ruth veut simplement servir. Et en cela, cela représente encore une fois le nouveau croyant. Lorsque quelqu'un est sauvé par la grâce de Dieu, il veut faire en sorte de glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait. Il veut servir le Seigneur. Marc, chapitre 5, verset 18 à 20. Tournez avec moi. Marc 5, 18 à 20. Je viens de mettre mes lunettes. Hein, c'est ce gars qui était possédé par plusieurs démons, finalement, qui est délivré par le Seigneur, quoi. Il rencontre le Seigneur et le Seigneur Jésus le délivre. Et là, eh bien, le verset 17, les Gadaréniens lui demandent de quitter. Alors, ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque, c'est-à-dire celui qui avait été possédé de plusieurs démons, lui demande la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais lui dit, « Va dans ta maison vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Hey, gloire à Dieu. Ouais. Et regardez ce qu'il dit, le verset 20, quoi. Hey, là, on a un cours d'évangélisation incroyable, hein? Pas de méthode. Là, on a ce qu'on devrait témoigner, quoi. Il s'en alla, il se met à publier dans la Décapole, c'est-à-dire dans 10 villes, tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Ouais. Va dans ta maison vers les tiens. Va dans ta famille. Va vers ceux que tu connais. Et va leur raconter ce que le Seigneur t'a fait. Va raconter le jour où tu as rencontré le Seigneur. Va rencontrer comment cette rencontre, elle t'a marqué dans ta vie. Va partager avec les membres de ta famille le bouleversement que ça a opéré dans ta vie. Les guérisons que ça a opéré dans ton cœur. La délivrance des péchés que ça a apporté dans ta vie. Tous ces petits démons, là. On les voit pas nécessairement comme des démons. Et tous ces petits péchés derrière lesquels se cache un petit démon qui vient nous tenter et qui nous fait tomber. Va raconter à ta famille comment Jésus-Christ t'a délivré de ça. Va montrer comment tu vis ta nouvelle naissance. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole. Même s'il réussit, passait pour un fou. Même si les gens se moquaient de lui. Il est allé dans les 10 villes et il est allé raconter ce que Jésus avait fait pour lui. Dans Luc chapitre 18, le fils de Timée, Bartimée, qui était aveugle, qui est guéri parce qu'il crie. La foule veut le faire taire. Lui, il crie. Il crie. Il crie plus fort que la foule. Et il est guéri. Et la première chose qu'il fait, c'est de suivre Jésus pour le servir. Frères et sœurs, on était sauvés pour servir. Et en cela, Ruth représente encore une fois ce nouveau croyant. Lorsque quelqu'un est sauvé par la grâce de Dieu, il veut faire en sorte de glorifier Dieu dans tout ce qu'il fait. Et mercredi soir, à l'étude biblique, on parlait de ceux dont les prières n'étaient pas exaucées. Et on se disait, oui, mais sur quelle base? Moi, je peux demander à Dieu qu'il me donne une Mercedes. Mais bon, une grosse Mercedes, Ernest, hein? Celle à 100 000 euros et ainsi de suite, hein? Bon, et les grosses Audi que les jeunes rêvent d'avoir, là, qui frisent les 100 000 et les Maserati et tout ça, quoi. Hein? Pourquoi Dieu m'en donnerait pas une? Tout ce qu'on demande au Seigneur dans nos prières doit servir à le glorifier. Tout. Tout ce que nous faisons pour le Seigneur doit servir à le glorifier, sinon Dieu ne répond pas et Dieu n'agira pas. Tout ce que nous faisons doit être pour la gloire de Dieu. Amen. Si vous louez le Seigneur ici le dimanche pour montrer aux gens comment vous chantez, comment vous priez bien, Dieu n'en a rien à cirer de ces prières-là, frères et sœurs. Lorsqu'on loue le Seigneur le dimanche matin, lorsqu'on chante pour le Seigneur le dimanche matin, ça doit être uniquement pour sa gloire. Seigneur, je rentre dans ce lieu ce matin, pas pour jouer à la vedette, pas pour faire la star, pas pour faire le spectacle, pas pour faire le show. Je rentre dans ce lieu ce matin pour te glorifier. Seigneur, c'est une journée particulière dans ma vie, le dimanche matin. Et je viens pour te glorifier afin que toi et tes anges dans le ciel. Non seulement je sais que tu te réjouis quand tu vois un perdu venir à toi, mais aussi que tu te réjouisses de voir ton peuple qui se réunit pour glorifier ton nom, Seigneur. Ta majesté surpasse les cieux. Tu es grand, Seigneur, nous dit Job. Seigneur, tu es grand par ta puissance, mais ta grandeur nous échappe. Ah! Hey, nous, quand on définit le mot « grandeur » dans le dictionnaire, et que c'est petit comme définition. Mais quand on parle de la grandeur de Dieu, nos scientifiques sont en train de tomber sur le derrière, là, avec les gros télescopes, à regarder, là, voir l'univers. Ça n'a plus de fin, quoi. Eh bien, ça, là, ça démontre la grandeur de Dieu, parce que la Bible nous dit que Dieu tient l'univers dans sa main, quoi. Essayez de définir maintenant qu'est-ce que c'est la grandeur de Dieu. Moi, je pourrais vous parler ce matin, mettre une goutte d'eau, puis je devrais pas quitter mes yeux de la goutte d'eau de peur de l'échapper, quoi. Dieu n'a pas besoin de regarder. Il a les yeux partout. Il n'y a rien qui lui échappe. Il entend tout. Il voit tout. Et sans regarder, il tient l'univers dans sa main, nous dit la parole. Essayez de définir la grandeur de Dieu, frères et sœurs. Et qu'est-ce qu'on est? Qu'est-ce que vous êtes? Qu'est-ce que je suis par rapport à la grandeur de Dieu dans l'univers? Une poussière. une poussière qui est invisible à l'œil nu, mais qui n'échappe pas à l'œil de Dieu. Amen. Hey, on a un Dieu extraordinaire, quoi. Ouais. Et l'humanisme, autant l'humanisme chrétien, essaie de diminuer cette grandeur de Dieu pour essayer de rajuster l'homme, quoi. Les capacités de l'homme par rapport aux capacités de Dieu. L'homme, il n'est rien, rien, rien sans Dieu. Vous êtes rien sans Dieu. Je suis rien sans Dieu. Nous dépendons entièrement de Dieu du début jusqu'à la fin. Et Paul l'explique très bien, dont notre foi dépend du début jusqu'à la fin en Jésus-Christ. Verset 3. Elle agit en fonction d'une loi que Dieu avait établie dans le passé. Il est écrit que Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller de l'année des épis dans le champ, de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Néhémie lui répond, « Va, ma fille. » Ruth se rend dans un champ et commence à de l'année, nous dit le texte. Il lui est permis de le faire parce que c'est une loi que Dieu avait décrétée dans le passé. Et à cette époque, comme c'est le cas en Belgique, on a le droit de l'année ici en Belgique, non? On a encore le droit de l'année en Belgique, non? Avec la crise, hein, il y en a plus, hein, oui. Mais oui, j'espère, parce qu'on me donne des patates. On m'a donné des patates l'année passée suite à une femme qui avait de l'année en champ. Donc, des pommes de terre, donc je pense qu'on a le droit. Au Canada, on n'a pas le droit. Mais en tout cas, en Belgique, gloire à Dieu qu'on puisse glaner, qu'on puisse passer derrière le cultivateur et ramasser ce qu'il a laissé. Mais à cette époque, comme c'est le cas en Belgique, je vais parler d'autre chose, Israël possédait un système social pour prendre soin des pauvres. Quand vous ferez la moisson, hein, Lévitique chapitre 19, versets 9 et 10, pour ceux qui ont leur Bible, « Quand vous ferez la moisson dans votre pays, vous laisserez un coin du champ sans le moissonner. » C'est ordinaire, hein, Dieu. C'est vrai que Dieu a à cœur la veuve et l'orphelin, hein. Vous laisserez dans un coin de votre champ, un coin sans le moissonner, et vous ne ramasserez pas ce qui reste à de l'année. Donc, un coin pour ces gens-là, et tout le reste, quand vous l'aurez moissonné, ce que vous aurez laissé derrière vous, vous le laissez là, quoi. Parce que je veux que les pauvres, je veux que les veuves, je veux que les orphelins puissent aussi avoir de la nourriture. Vous ne cueillerez pas non plus, nous dit le texte, les grappes restées dans votre vigne, et vous ne ramasserez pas les grains qui en seront tombés. Vous abandonnerez cela aux pauvres et à l'étranger. Je suis l'Éternel, dit votre Dieu. Et ce n'était pas une aumône, finalement, qui était faite aux pauvres, car ils devaient travailler pour ramasser, quoi. Ils devaient travailler pour ramasser les grains laissés sur le sol. Ils devaient se rendre dans les champs pour ramasser ce qui restait. C'était une loi qui visait à pourvoir aux pauvres. Et nous lisons ici dans le texte que Naomi alla de l'année derrière les moissonneurs. On est en train de moissonner et Naomi, elle est en arrière, quoi. Et on verra la semaine prochaine ce qui se passe. Mais elle est en arrière et elle récupère. Et dans sa grâce, Dieu, elle récupère avec abondance, eh bien, ce que les moissonneurs vont laisser. Dieu avait agi dans le passé pour répondre aux besoins actuels de Ruth. Et frères et sœurs, il en est de même dans la vie du croyant. La position dans laquelle nous nous trouvons en Jésus-Christ a été rendue possible à cause de ce que Dieu a décrété dans le passé, à cause de ce que Dieu a décrété depuis toute éternité, à cause de ce que Dieu a annoncé à travers les prophètes dans l'Ancien Testament. Dieu avait déjà prévu d'envoyer son Fils avant même que le péché entre dans le monde. 1 Pierre chapitre 1, verset 18 à 20, il a été choisi, c'est-à-dire Jésus, a été choisi par Dieu. Avant la fondation du monde, il a été manifesté pour notre bien dans ces temps qui sont les derniers. Tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes, frères et sœurs, sont le fruit de l'œuvre accomplie par grâce par Jésus sur la croix. Dites amen à ça. Ouais. Verset 3. Et il se trouve, par bonheur, que la parcelle, je lis bien le texte, hein, par bonheur, que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Élimélec. Elle partit de l'année dans un champ et elle arriva, dans le champ duquel, aux yeux duquel elle a trouvé grâce. Et il se trouve par bonheur, nous dit le texte, que la parcelle de terrain appartenait à Boaz. Celui qui ne connaît pas Dieu, frères et sœurs, ce matin, il va dire que c'est par chance, que c'est le hasard qui l'a conduit dans ce champ qui appartenait à Boaz. Mais le texte n'utilise pas le mot chance, le texte n'utilise pas le hasard, car Ruth ne savait aucunement que ce terrain appartenait à Boaz. Mais pour celui qui connaît Dieu, pour celui qui a été racheté par la grâce de Dieu, il sait qu'il peut compter sur la bienveillance de son Père céleste et que la chance n'a rien à voir. Derrière tout cela, frères et sœurs, il y a un Dieu qui veillait sur sa vie et qui faisait en sorte que tout concourt à son bien et pour sa gloire à lui. C'était la volonté de Dieu qui se réalisait ici. Il savait déjà que Ruth se marierait avec Boaz et qu'un bébé naîtrait de ce mariage. Et si vous lisez le reste, hein, ça c'est Dieu, là, il a le don de nous déculoter, frères et sœurs, dans sa parole. Hein. C'est incroyable, hein? J'espère que je ne suis pas vulgaire, c'est un terme québécois qui veut nous dire qu'il nous laisse sans rien, quoi. Hein? Ouais, bouche bée, quoi. Dieu a le don de nous déculoter. Écoutez, il va utiliser une païenne, une moabite, qui vient née dans un pays qui a été maudit par Dieu, pour faire en sorte qu'elle entre dans la lignée de Jésus-Christ, quoi. Hey, nous qui sommes religieux, si on avait eu ça à l'époque, oh! On l'aurait maudit! On l'aurait disqualifié! Hey, c'est pas une Israélite, c'est une Moabite! Tu t'es converti, je suis pas convaincu! Non! T'es pas né au milieu de nous! Pas convaincu que t'es sauvé! Non! Hey, t'es pas né dans l'Église! T'as pas fait l'école du dimanche! T'as pas fait le groupe de jeunes! T'as pas fait des études bibliques! Je ne sais pas jusqu'où t'es converti. Ça n'a rien à voir, hein? Ça n'a rien à voir. Dites amen à ça. Pas le fait qu'on est né dans l'Église, hein, qu'on est sauvé. Pas le fait qu'on se fait baptiser, qu'on est sauvé. C'est le fait qu'il y a un miracle qui s'est produit dans notre vie parce qu'on a rencontré la personne de Jésus-Christ, qui a bouleversé notre vie. Et derrière cette croix de bois se cache quelqu'un qui est mort sur cette croix, qui est ressuscité, qui est vivant aujourd'hui, et qui va agir dans chacune de nos vies. Même si on n'est pas digne qu'il le fasse, on est trouvé digne aux yeux de Dieu à travers la personne de Jésus-Christ. On n'est pas obligé d'être né dans l'Église, d'avoir fréquenté l'Église pour être sauvé. On n'est pas obligé d'avoir des parents chrétiens pour être choisi par Dieu depuis toute éternité, pour faire partie de son peuple. Il suffit d'entendre la parole, il suffit d'ouvrir notre cœur, d'entendre l'Évangile, pas diluer, d'entendre l'Évangile. Le message de la croix. Et là, si on ouvre notre cœur au Seigneur, si on reconnaît ce qu'on est, il y a un miracle qui se produit dans nos vies. On n'est pas capable de l'expliquer. Jésus l'explique très bien, Nicodème, dans le chapitre 3 de l'Évangile de Jean. C'est comme le vent. Tu ne vois pas le vent, hein? Tu ne vois pas? Mais tu le sens, hein? Ouais. Mais c'est la même chose avec la nouvelle naissance. Tu ne la vois pas arriver, hein? Mais quand quelqu'un est de nouveau, tu le sens, hein? Tu le sens? Ouais. Tu le sens. C'est ça que Jésus est en train de dire à Nicodème, hein? Pourquoi tu ne peux pas le voir? Parce que c'est un miracle. Parce que ça vient d'en haut. Mais par contre, tu vas voir les conséquences de la nouvelle naissance. Tu vas voir que ça va produire un changement dans la vie d'une personne, quoi. Amen. Ah, c'est ce que vous avez vécu, quoi. Ben ouais. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles pour celui qui est en Jésus-Christ. Ruth ne le savait pas, mais elle accomplissait parfaitement le plan que le Seigneur avait prévu pour sa vie. Elle se trouvait au bon moment, au bon endroit, en même temps, quoi. Plusieurs seront surpris lorsqu'ils arriveront au ciel et qu'ils réaliseront qu'il y a beaucoup de choses qu'ils ont vécues qui n'étaient pas par chance, mais que c'était des bénédictions qui provenaient du trône de la grâce de Dieu. Ils comprendront qu'ils ont eu plus que de la chance sur la terre, mais qu'ils ont reçu la faveur de Dieu pour leur bonheur. Et c'est pour ça que le texte ici dit « Et il se trouva par bonheur, pas par chance, par bonheur. » Frères et sœurs, Dieu est derrière les scènes de vos vies, préparant toutes choses avec un but en tête, celui de nous amener à approfondir notre relation avec Jésus-Christ. Tout le processus de la croissance spirituelle est une œuvre de Dieu dans nos vies, permettant et préparant que certaines choses ou certains événements nous rapprochent de Jésus-Christ. Tout comme le Seigneur agissait dans la vie de Ruth, il agit dans chacune de nos vies. Rien n'est par hasard ou par accident. Le mot « coïncidence » n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. Voilà pourquoi nous devons avoir confiance en lui en tant que croyants. Dieu est toujours à l'œuvre et il agit dans nos vies pour accomplir le seul but qu'il s'est fixé. Là, c'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre Paul. Reproduire le caractère de son Fils dans le cœur de chacun de ses enfants. Reproduire le caractère de Jésus-Christ dans le cœur de chacun de ses enfants. Paul nous explique très bien c'est quoi le caractère d'un enfant d'Adam, du premier Adam. Ce sont les fruits de la chair. C'est pour ça que je dis qu'on ne devrait jamais dire à un chrétien, lui, il a un sale caractère, lui, il a tout un caractère, parce qu'on est en train de décrire qu'il n'est peut-être pas sauvé, quoi. Parce que ça veut dire que si on utilise ces termes-là, ça veut dire qu'il est en train de produire finalement le caractère du premier Adam. Mais Paul nous parle aussi que quelqu'un qui est sauvé, qui est né de nouveau, va produire le caractère du deuxième Adam, c'est-à-dire la personne de Jésus-Christ. Pas le deuxième Adam, le dernier Adam, la personne de Jésus-Christ. Patience, maîtrise de soi et tout le tralala. Hein, toute la suite, quoi. Ouais. Le but que Dieu s'est fixé, c'est reproduire le caractère de son Fils dans le cœur de chacun de ses enfants. Est-ce que Dieu est en train de faire cette œuvre dans vos vies ce matin, frères et sœurs? Boaz était un parent du mari de Naomi, verset 1. C'était exactement ce que Ruth avait besoin de rencontrer, même si elle ne le savait pas. Boaz était celui qui était qualifié pour racheter les deux veuves. Selon la loi de Dieu, lorsqu'un homme meurt, dans Nombre, chapitre 27, vous lirez ça à la maison, verset 8 à 11, lorsqu'un homme mourait sans laisser de fils, son héritage passait à sa fille. S'il n'avait pas de fille, son héritage allait à ses frères. S'il n'a pas de frère du côté de son père, son héritage allait au plus proche, parent de sa famille. Et c'est lui qui possédait l'héritage. Boaz, frères et sœurs, représente Jésus-Christ, notre Rédempteur, celui qui nous a rachetés. En devenant homme, il est devenu un membre de notre famille afin de pouvoir nous racheter de nos péchés. Extraordinaire, non? Pas merveilleux, ça? Ah, c'est pour ça la doctrine qui dit que Jésus, c'est le chef des anges, c'est de l'hérésie chrétienne. Bon, je suis pas gêné de le dire ce matin du haut de la chaise, ça vient des témoins de Jéhovah qui ont emprunté ça à rien. C'est une vieille doctrine du début de l'Église primitive, hein? Donc, Russell a sorti ça des boulamites et vous connaissez ça, des boulamites, si oui? Non? C'est ce qu'on mettait dans les garde-robes là, pour empêcher les mites de venir ronger les vêtements. Des boules à mites. Vous appelez ça comment en Belgique? Neftaline, OK. C'est un nom moins scientifique chez nous, mais bon. Ça sent la même chose, hein? Okay. En haut de 60 ans, le problème, c'est pas de faire des parenthèses, c'est de les fermer. On va y revenir dans le texte. Quoi. Voilà, alors c'est ça, je disais que Jésus était devenu un homme. Donc, c'est une hérésie de penser que Jésus est le chef des anges. Si les anges avaient besoin d'être sauvés, c'est possible. Mais c'est des hommes, mais il n'y avait qu'un homme qui pouvait le faire. Un homme parfait, un homme sans péché. Et sur la terre, il n'y en avait pas. Dans l'univers, il n'y en avait pas. Il y en avait un seul, c'était Jésus-Christ. Et Dieu, à travers Jésus-Christ, va s'incarner pour venir sauver son humanité. Pour venir sauver l'homme qui est perdu dans ses péchés. Quel amour Dieu manifeste à travers la personne de Jésus-Christ. Quel amour magnifique. Boaz aussi, on nous dit, on apprend au verset chapitre 2, verset 1, que c'était aussi un homme puissant et riche. Cela signifie que Boaz possédait toutes les ressources nécessaires pour mener à tâche la tâche qui lui revenait de racheter les membres de sa propre famille. Et frères et sœurs, Jésus-Christ est celui qui possède les ressources suffisantes pour nous racheter. Il était sans péché, mais Dieu l'a chargé de notre péché afin que par lui nous puissions bénéficier de l'œuvre à laquelle Dieu nous rend juste à ses yeux. Hey. Méditez ça, hein? Et on n'est pas obligé de passer, de subir la condamnation, de subir le châtiment qu'on mérite pour nos péchés. Lui, dans son amour, il a accepté de subir mon châtiment, de prendre ma condamnation sur lui, pour que je puisse recevoir le pardon de mes péchés, puisqu'il a déjà été condamné pour mes péchés. Extraordinaire. Hein? Quand on comprend ça, on comprend en quoi Dieu nous a aimés. Et si on veut parler de l'amour de Dieu sans parler de la croix, c'est une hérésie qu'on est en train de véhiculer. Je vous mets au défi de lire le Nouveau Testament et de me sortir des versets où à chaque fois que Paul, que tous les gens dans les épîtres parlent de l'amour de Dieu, à côté, on ne parle pas de la mort de Jésus, de la crucifixion, ces deux choses sont ensemble, quoi. Dieu manifeste son amour envers nous alors que nous étions pécheurs. Christ est mort pour nous. L'amour de Dieu relié à la croix. Ouais. Relié à la croix, frères et sœurs, c'est extraordinaire. Le magazine Forbes a publié un article dans lequel apparaissaient les 10 hommes les plus riches au monde. Et dans cette liste, eh bien, il y avait Bill Gates, le fondateur de Microsoft, qui est l'individu le plus riche au monde. Écoutez, j'ai pas écrit les chiffres parce que c'est aberrant, mais juste pour vous donner une idée de sa fortune. Chaque battement de son cœur correspond à 550 euros qu'il gagne à chaque battement de son cœur, quoi. Ça vous donne une idée de sa fortune, quoi. Calculez, là. Je ne sais pas si vous êtes en forme. Ça dépend. Quelqu'un qui fait un peu de cholestérol, qui n'est pas en forme, qui bat 150, la fortune monte très vite. Mais quelqu'un qui a un cœur normal, qui bat normalement, je présume que Bill Gates, il ne doit pas trop faire de cholestérol, quoi. Et tu calculais 550 euros à la minute. Pas à la minute, au battement de chaque, à chaque battement de son cœur. Pourtant, j'ai des nouvelles pour Bill Gates ce matin. Il peut se considérer comme étant pauvre. Et aussi pauvre que vous et moi, si nous le comparons sur toi, Jésus-Christ. Parce que Bill Gates, un jour, il va mourir. Et Bill Gates, quand son cœur va arrêter de battre, son argent aussi va arrêter, va diminuer. Elle va disparaître. Il ne peut rien apporter avec lui, quoi. Rien apporter. Comment est-ce qu'il s'appelle, celui qui fait les grosses têtes? Les droits de main, ceux qui écoutent les grosses têtes, là. Philippe Bouvard. Il a 80 ans passé, hein. Il est frustré, ce gars-là. Plus il vieillit, plus il est frustré. Dans une interview que j'ai vue à la télévision, il a dit ceci. Ce qui me frustre le plus, c'est de voir en haut de 80 ans, je pense qu'il disait qu'il avait 83, c'est de voir que je vais devoir laisser tout ça. J'ai travaillé toute ma vie pour laisser tout ce que j'ai, quoi. Il a une immense maison qui vaut à peu près 1 million, au-dessus, je ne sais pas où, sur le bord de la Méditerranée, qui a une vue incroyable sur la Méditerranée, des meubles, en tout cas, c'est à vous couper le souffle. Et ce gars-là, écoutez, qui est un bourreau de travail, eh bien, viens nous dire que ce qui le frustre le plus, c'est de savoir qu'il a travaillé pour ça toute sa vie, qu'il va devoir tout laisser cela. Et à la question pourquoi on lui demandait pourquoi il continue à travailler à l'âge de 83 ans, vous savez ce qu'il a répondu? Pour oublier qu'un jour je dois mourir. Pour éviter de penser à la mort. C'est fou, hein? C'est pas parce que c'est un bosseux. Il bosse parce qu'il a peur de mourir, et le fait qu'il bosse, ça l'empêche de penser qu'il va mourir un jour, quoi. Alors, frères et sœurs, Bill Gates, finalement, quand il va arriver à la fin de sa vie, il ne sera pas plus riche que vous et moi. Au contraire, nous, on est beaucoup plus riches que lui. Parce qu'on possède tout ce que Dieu a donné en héritage à Jésus-Christ. Et Dieu a donné tout à Jésus-Christ. Et il a fait de nous des co-héritiers en Jésus-Christ. Amen. Tout appartient à Dieu, nous dit les Écritures. Et Dieu possède un amour éternel pour ceux qui sont tombés. Il nous a montré à quel point il nous aime. Le Christ est mort pour nous alors que nous étions encore pécheurs. Sa grâce est infinie et suffisante pour sauver quelqu'un qui s'incline devant Dieu par la foi avec un cœur repentant. Jésus a parfaitement accompli le plan de Dieu pour nous racheter, satisfaisant ainsi la justice de Dieu. Et frères et sœurs, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Et quand vous commettez un péché, que vous entendez une petite voix qui vous dit « Arrête de plaider, arrête de confesser, ta cause elle est perdue devant Dieu », rappelez-vous, rappelez-lui à cette voix, rappelez-lui à cette voix, oui, voilà. Rappelez-nous que vous avez un avocat auprès du Père pour vous défendre, pour défendre votre cause. Bon, ça ne veut pas dire que vous devez baigner dans le péché, hein, parce que là, vous risquez de vous retrouver tout seul, quoi. Hein. Mais s'il vous arrive de pécher, nous dit la première épître de Jean, eh bien, confessez votre péché, il est fidèle et juste pour vous pardonner tout péché. Et ça, c'est béni, ça. Ça nous évite un sentiment de baigner dans un sentiment de culpabilité, quoi. Amen. Le salut est peut-être gratuit, mais il a coûté extrêmement cher à Dieu. Et aujourd'hui encore, vous pouvez être sauvé si vous voulez venir à Jésus par la foi. Et Boaz était un homme puissant. Son nom signifie « à l'intérieur, il y a de la force ». À l'intérieur de lui, il y a de la force. C'était un homme respecté par ses semblables. On va terminer avec ça. C'est cet homme que Ruth rencontrera et qu'elle viendra connaître intimement. Encore une fois, nous avons ici une image du Seigneur Jésus-Christ. En ce que Dieu a donné à Jésus un nom qui est au-dessus de tout nom. Les hommes peuvent se moquer de lui, utiliser son nom comme symbole, utiliser son nom pour blasphémer, mais dans le ciel, son nom invoque, le nom de Jésus invoque l'adoration et la reconnaissance. Et nous savons qu'un jour, ce même Jésus recevra de tous les hommes le respect qui lui est dû. Alors, je ne vous donne pas les références, mais Romains chapitre 14, verset 11, Apocalypse chapitre 5, verset 1 à 13, alors il est préférable de le faire maintenant que d'attendre jusqu'à ce jour. J'aimerais terminer ce passage de Ruth ce matin en vous posant 3 questions très simples. Et je pense que vous connaissez la réponse et tout ce que vous avez à faire, eh bien, c'est d'être honnête en les entendant. Première question, je vais vous inviter à fermer les yeux. Il ne faut pas d'appel, simplement à réfléchir, éviter de regarder dehors, de regarder le voisin, simplement courber la tête et réfléchir à ce qu'il y a 3 questions que je vais vous poser. La première question ce matin... Êtes-vous sauvé? Je ne vous demande pas si vous êtes mort. Je vous demande pas si vous êtes une bonne personne, mais êtes-vous né de nouveau? Première question. Deuxième question, si vous êtes sauvé ce matin, pouvez-vous honnêtement dire que vous progressez dans le Seigneur comme vous le devriez? Car c'est ce que Dieu ordonne et désire que vous progressiez, frères et sœurs. Troisièmement, avez-vous faim pour quelque chose que vous n'avez pas encore maintenant dans votre vie spirituelle? Si c'est le cas, vous le trouverez auprès du Seigneur. Dieu a ce que chacun de vous recherche ce matin, si vous voulez venir à lui et le recevoir. Prenons quelques instants de silence. Laissons le Saint-Esprit agir dans nos cœurs. Puis ce matin, dans cette salle, il y a des gens qui n'ont pas cette assurance de savoir où ils vont passer l'éternité. Eh bien, le moyen d'y arriver, c'est fort simple. Le moyen de connaître la réponse, c'est fort simple. La Bible nous dit que nous sommes pécheurs, que nous sommes perdus, que le salaire de nos péchés, c'est-à-dire la conséquence pour nos péchés, eh bien, c'est la mort physique, la mort spirituelle, la mort éternelle, c'est-à-dire l'enfer pour l'éternité. Mais la Bible nous dit que dans son amour, Dieu a trouvé un moyen pour éviter que nous terminions en enfer, que nous baignions dans la culpabilité toute notre vie. Il a offert son Fils sur la croix comme victime. Victime expiatoire, c'est-à-dire qu'il prend sur lui la condamnation, le châtiment qu'on mérite. Et en retour, eh bien, nous sommes lavés, purifiés de nos péchés. Et nous sommes pardonnés. Et l'espérance qu'on a, eh bien, ne s'arrête pas à la croix, mais elle se poursuit dans la résurrection. Jésus est non seulement mort sur la croix, il est aussi revenu à la vie. Il est passé de la mort à la vie. Et pour tous ceux qui placent leur confiance dans ce sacrifice, Jésus nous dit aussi qu'un jour, il nous ramènera de la mort à la vie. Que ce corps qui va retourner en poussière, s'il n'est pas revenu avant que nous mourions, eh bien Dieu le ressuscitera. Il lui donnera un corps, un nouveau corps, qui ne vieillira plus, qui ne mourra plus. Ce matin, si vous avez jamais pris cette décision et que vous voulez le faire, avec de simples paroles, là où vous êtes, vous pouvez simplement dire, Jésus, je réalise que je suis pécheur et je réalise jusqu'à quel point j'ai désobéi à la loi de Dieu ce matin. Tu as touché mon cœur et je veux t'inviter. Je veux t'inviter à te recevoir comme celui qui est le seul capable de me sauver. Et je reconnais qu'à travers ton sacrifice sur la croix, tu as versé ton sang pour moi, tu as donné ta vie pour moi. Et qu'en retour, eh bien, mes péchés sont effacés. Je suis purifié, lavé. Et que je deviens une nouvelle créature, c'est-à-dire que je passe par cette nouvelle naissance. Et je deviens ton enfant. Seigneur Jésus, merci de m'accepter tel que je suis. Merci, Seigneur, de me trouver digne dans le sacrifice de ton Fils. Et à partir d'aujourd'hui, eh bien, je te demande pardon, non seulement pardon, mais je veux marcher dans tes voies, apprendre à t'obéir et à lire ta parole pour connaître tes enseignements, connaître ta volonté. Deuxième question, si vous êtes sauvé, pouvez-vous honnêtement dire que vous progressez dans le Seigneur comme vous le devriez? Si c'est cette deuxième question qui vous interpelle ce matin, que votre prière soit, Seigneur, tu sais ce qui m'empêche de te connaître comme je devrais te connaître. Tu sais ce qui empêche que tu puisses te manifester comme tu devrais te manifester dans ma vie. Tu sais ce qui m'empêche de ressembler à Jésus-Christ. Seigneur, brise ces chaînes ce matin. Brise ces liens. Délivre-moi, Seigneur, parce que je suis ton enfant et que je ne suis pas digne de vivre parmi ces chaînes alors que tu as payé un si grand prix pour m'en libérer. Si c'est la troisième question qui vous interpelle ce matin, si vous avez faim pour quelque chose que vous n'avez pas encore maintenant dans votre vie spirituelle, eh bien, je vous invite à méditer les Écritures parce que Dieu a pour vous ce dont vous avez besoin pour vous rassasier. Si vous avez soif, pour vous rassasier aussi, pour contenter votre soif. Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins et à tous vos besoins. Amen.